Bonjour, je m'appelle Oscar Kupfen, je suis écrivain, j'ai écrit 7 romans, j'écris un petit peu aussi parfois pour la presse, pour des reportages, et j'ai écrit quelques scénarios de podcasts notamment. Voilà, je suis là aujourd'hui pour vous parler de cette étrange question, et vaste question j'allais dire, qu'est le style en littérature. Déjà, je tiens à m'excuser puisque je sais que je m'exprime assez mal en général, à l'oral, d'autant plus seul sur la table de ma cuisine, avec une note vocale, qui est ma toute première note vocale de tous les temps. Je n'en avais jamais enregistré, donc c'est une grande première. J'espère que vous me pardonnerez et que tout ira bien. J'ai essayé de réfléchir un petit peu à cette question, comme je disais tout à l'heure, que je trouve immensément vaste, puisqu'à mon sens, c'est la question de la littérature même. Je veux dire par là, je n'arrive pas à considérer un texte littéraire indépendamment du style de son auteur. Je me souviens d'avoir eu une discussion il y a une bonne quinzaine d'années déjà avec un ami très proche qui me demandait quand j'étais écrivain, comme on dit dans ces cas-là, il me disait mais comment tu fais pour choisir telle image à tel moment, par exemple, comment tu vas choisir si tu parles d'une table de cuisine, pour reprendre l'idée de la table de la cuisine, puisque j'y suis installé, comment est-ce que tu peux savoir si elle va être en bois, en formica, de telle couleur, de telle largeur, est-ce qu'elle sera ronde ou est-ce qu'elle sera rectangulaire? Je me souviens de lui avoir répondu très simplement que finalement je me fichais un peu de la couleur de la table et que si le fait d'écrire une table noire sonnait mieux qu'une table marron, dans l'ordre de ma phrase et dans le rythme que je voulais donner à ce texte-là, bah finalement elle serait noire et puis c'est tout. Je crois qu'il y a différentes manières d'approcher l'écriture. Je sais que pour moi, et je suis loin d'être le seul évidemment, c'est vraiment une sorte de musique et de rythme. À partir de ce moment-là, quoi d'autre que le style pour créer cette musique-là? Alors, on parle souvent de la petite musique, comme on parle de la musique de Modiano, voilà, cette petite musique entêtante. On a tendance à le dire beaucoup pour la poésie. Je pense que dans l'écriture romanesque, c'est aussi frappant. Ce qui est très drôle à voir et à observer, en revanche, à entendre plutôt, c'est quand certaines personnes font la lecture de vos textes. Alors, ça peut être un conseil. Moi, je me souviens d'être pris de plein fouet parce que, donc, comme je vous le disais, étant assez mauvais à l'oral, souvent quand j'avais des lectures à faire, je demandais si par hasard il n'y aurait pas une personne qui serait meilleur lecteur que moi, meilleure lectrice que moi, qui pourrait s'en charger. Et donc j'étais très surpris d'entendre et d'écouter ensuite mes propres textes lus par d'autres personnes, puisque je voyais qu'ils y mettaient tout à fait autre chose que ce que moi j'avais voulu y mettre. Parfois c'était mieux d'ailleurs. Quand je dis que c'était autre chose, c'était pas nécessairement moins bien. Mais je m'apercevais que les pauses, les temps lents, au contraire les accélérations et tout ça n'était pas forcément aux endroits où moi je les avais pensés et en tout cas entendus comme ça quand je l'écrivais. Donc il y a cette musique et il y a l'interprétation. Alors après, la grande question, c'est à savoir est-ce que le lecteur silencieux, quand il est face à un bon styliste, si je peux dire, se retrouve finalement, quoi qu'il arrive, guidé par le rythme de l'auteur, ou est-ce que chacun a sa propre lecture et sa grille de lecture, même en silence, et cette propre musique-là qui lui rentre dans la tête comme une espèce de petite bestiole, ou non, je ne sais pas, je pense, je suis à peu près sûr que si vous et moi nous lisons Thomas Bernhard de la même manière, et même si c'est une traduction, on ressentira les mêmes émotions, les mêmes sensations liées, et là, incontestablement, plus qu'aux péripéties, au style. Il y a cette fameuse phrase qui est usée, trop usée dans la publicité ou partout ailleurs, j'allais dire, de Buffon, où il aurait dit le style, c'est l'homme. Malheureusement ou heureusement, en fait, j'en sais rien, mais les phrases usées sont souvent vraies. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que le style, l'intérêt du style, c'est qu'il soit propre à la personne qui le manie. Alors bien sûr, il y a des trucs et astuces, bien sûr, il y a des figures de style. Alors oui, on va pouvoir faire un casque, on va pouvoir faire une métaphore, on va pouvoir placer de telle manière. Voilà, il y a des trucs, il y a des ficelles, évidemment. Et ça, il n'y a rien de mieux pour les découvrir que de lire les auteurs qui les utilisent, sachant que toute ficelle n'est pas mauvaise. Parfois, il faut avoir recours à un petit truc, à un petit dispositif. Mais, quoi qu'il en soit, je pense que c'est un peu comme une manière de porter un manteau. C'est-à-dire que tel type ne portera pas le manteau le même manteau ne sera pas porté de la même manière par telle ou telle personne. Et la manière de s'exprimer, et en fait plutôt d'écrire, j'allais dire, ne sera jamais celle de quelqu'un d'autre. Donc en fait, l'idée du style, c'est de trouver le sien sans le forcer. Alors c'est ça qui est un peu compliqué, je pense. Je me souviens, moi, des premiers textes que j'écrivais, et alors je les relis peu, parce que quand je les relis, j'ai honte, et puis même les textes dont j'aurais pas honte, je ne les relis pas d'ailleurs, mais. Et j'arrive à voir, en gros, à chaque déménagement, je me retrouve un peu avec mes piles de manuscrits, puis je regarde si je les balance ou pas, et donc j'y jette un œil gêné et comme un peu. Caché, et je vois immédiatement en me lisant mes lectures de l'époque, et tout ça remonte d'un coup. Alors c'est assez touchant pour ses propres souvenirs, mais c'est assez terrible pour l'écriture en elle-même, c'est-à-dire qu'on écrit un petit peu à la façon de. Est-ce qu'on est obligé de passer par l'imitation pour trouver son propre style? Peut-être, je sais pas. Il y a un texte, enfin un livre d'ailleurs même de Proust qui est assez peu lu, mais qui est édifiant à propos de ces questions-là, qui s'appelle Pastiche et mélange, pardon, où il imite le style de certains auteurs. Il le fait évidemment, vous vous en doutez très bien. Et à ce sujet, à propos d'imitation, il y a une lettre de Raymond Guérin, qui est donc un écrivain. Milieu du XXe siècle bordelais, qui est formidable. Je vous conseille L'Apprenti d'ailleurs, qui est à mon sens un de ses. Enfin, en tout cas, son roman que je préfère, je pense. Zobin aussi est très bien, et Les Poulpes est formidable. Auteur un peu méconnu, mais immense styliste. Et lui disait dans ses journaux, si ma mémoire est bonne, il parlait justement du fait qu'il était capable de plagier absolument n'importe quel style, de Stendhal à Flaubert, en passant par ses contemporains, mais que la seule personne dont il était incapable d'imiter le style, c'était Catherine Mansfield, qui est une auteure anglaise formidable. Et effectivement, chez elle, il y a une telle clarté, une telle simplicité qu'on est bien démuni à essayer de l'imiter. Je parlais de Stendhal, je sais que lui avait des exercices justement pour alléger ou en tout cas purifier son style. Et comme il le disait, lui, il recopiait le code civil pendant, je crois que c'était 1 heure par jour, quelque chose comme ça, un peu comme on ferait des lignes de conjugaison à l'école, ou un peu comme les peintres pourraient s'exercer à tracer des lignes droites à main levée pendant des heures tous les jours. Et il répétait ces gestes-là parce qu'à son sens, le code civil était la plus pure forme de style, puisque justement, elle n'avait aucun style. Je pense que ça plairait beaucoup. Je m'avance peut-être un peu, mais je suis à peu près sûr que Houellebecq serait d'accord avec cette idée-là. J'avais lu une interview de lui assez rigolote où lui dit que le style ultime, c'est celui des modes d'emploi, des notices de médicaments. Je ne sais pas si vous les avez déjà lus, moi je les lis toujours en long, en large et en travers, et c'est effectivement assez édifiant et assez fascinant. Et il y a un style propre au mode d'emploi qui est inimitable, quoi. Blague à part, ce qu'il y a dément, je trouve, dans le style en littérature, c'est que, bon, premier point, il nous appartient en propre, c'est-à-dire que un auteur qui est un auteur aura exactement son style. Et je pense que sans ça, il n'y a pas de littérature. C'est-à-dire qu'on aura beau faire des péripéties, des histoires formidables, des rebondissements et tout ça, sans style et donc pas de propre, je pense, à mon sens, qu'on n'est pas à l'endroit de la littérature. Et c'est ça qui est formidable, justement, quand on écrit, c'est qu'on a une espèce de liberté délirante, parce que contrairement à certains arts, on n'a pas besoin d'atelier, on n'a pas besoin de matériel, on n'a pas besoin. Voilà, on n'est pas en train de devoir acheter du marbre pour le tailler. Un stylo et un bout de papier se trouvent à peu près partout. Et donc, bah, qu'est-ce qui nous reste justement? C'est ces sonorités-là et cette musique qu'on va essayer de faire sonner avec rien, ce que je trouve quand même fascinant, faire de la musique sans bruit. C'est quand même assez génial. Et donc, je crois qu'il faut se rendre compte de cette absolue liberté et d'arriver à intégrer le fait que justement, on fait absolument ce que l'on veut et faire ce que l'on veut en revanche ne veut pas dire faire n'importe quoi et je pense que on a comme un devoir face à cette liberté-là c'est justement de pas être dans le pastiche de pas être dans le mélange de pas être dans le truc de ne pas prendre ses lecteurs pour des idiots parce qu'on s'adresse quand même à des lecteurs même s'ils sont pas personnifiés si on écrit c'est quand même pour être lu sinon on se contenterait de penser à mon sens et donc ce devoir-là, c'est de trouver sa voix. Ça m'énerve un peu d'avoir cette phrase, mais de trouver sa voix, mais si quand même en fait.
Alors je pense qu'il y a quelque chose qui peut être utile, et là ça va pas être au moment de l'écriture, mais un peu dans sa préparation, et je pense que la préparation à l'écriture, c'est avant tout la lecture. Et ce que je peux vous conseiller, c'est de ne jamais lire sans un stylo. Moi j'ai pris cette habitude il y a un moment, et en fait du coup avec un stylo, on souligne les passages qui nous plaisent, indépendamment de l'histoire, je veux dire, mais vraiment les mots qui chantent correctement. Ça semble correctement. Pardon. Et en soulignant toutes ces phrases qui sonnent juste, petit à petit, on se met à les analyser, à essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui fait que cette phrase est parfaite, ou a l'air en tout cas d'être parfaite à cet endroit-là. Lire, c'est aussi, quand on veut écrire, en tout cas, pas seulement se laisser porter, mais aussi essayer de décortiquer les choses, alors sans les analyser trop évidemment, mais juste en essayant de comprendre les techniques qui ont été utilisées par l'auteur. Voilà, donc si vous avez un auteur préféré, favori, ça peut valoir le coup de le relire, cette fois-ci sans, en essayant de se laisser pas trop embarquer par l'histoire, mais en ayant toujours une espèce de petit regard à côté pour essayer de trouver les ficelles et en fait tout ce qu'on nous cache, comme on nous le cacherait dans un film. Pour l'exemple des figures de style et des métaphores, il y a des choses très simples qui peuvent fonctionner. Parfois, tout bêtement, inverser un mot, c'est-à-dire que on pourrait vouloir dire les pétales rouges. Et si on écrit les rouges pétales, tout de suite, il y a quelque chose d'un petit peu plus surprenant et qui va faire une espèce de petite aspérité qui peut fonctionner. Alors cet exemple, je l'ai pris bien sûr au hasard, mais parfois inverser l'ordre de deux mots peut faire toute la différence en termes de style et de sonorité. Après, autre exercice, je pense aussi, c'est essayer de s'émanciper des lieux communs ou en tout cas des expressions toutes faites. Par exemple, il pleut des cordes. Bon, alors l'image en soi est super parce qu'effectivement, on a vraiment l'impression quand il pleut fort que ce sont des cordes qui tombent du ciel, mais c'est une expression un petit peu usée, vous en conviendrez. Et essayer de trouver autre chose qui serait une expression, alors sans chercher l'originalité à tout prix, mais une autre image que celle qu'on a l'habitude d'employer parce qu'en fait, au bout d'un moment, en fait, ces images-là se perdent dans la banalité, dirais-je, et donc justement, on en oublie même l'image qu'elles étaient censées véhiculer au début. Et donc, ces espèces d'expressions toutes faites qui, je pense, sont. Enfin, dont il faut essayer de se passer le plus possible et d'être un petit peu plus exigeant quand on assemble des mots et des expressions.
Je finirai sur un texte de Barthes où lui parle des personnes qui décortiquent les textes et ça le rend fou et il s'emballe. Parfois Barthes s'énerve un petit peu et là il s'énerve. C'est assez drôle et il prend l'exemple des personnes qui, commentant des poèmes de Rimbaud, disent Ah, en écrivant ça, Rimbaud a voulu dire ça. Et Barthes dit Non, si Rimbaud avait voulu dire ça, il l'aurait dit. Donc il n'a voulu dire absolument que ce qu'il a dit. Ne prenez pas Rimbaud pour un idiot. Et voilà, je ne sais pas si là. La comparaison est très claire, ou la métaphore. je vous souhaite bien du courage pour ce défi que je trouve rigolo. Et puis peut-être que pour certains d'entre vous, je vous retrouverai lors de mon atelier de la fin du mois de juillet. Voilà, à très bientôt et bonne journée.